Histoire de France, Jacques Bainville, chapitre 19. La monarchie de Juillet. Une des plus grandes illusions qu'on puisse avoir en politique, c'est de croire qu'on a bâti pour l'éternité. Les hommes, qui avaient appelé au trône un Bourbon de la branche cadette, étaient convaincus qu'ils avaient trouvé la solution idéale. Qui était le duc d'Orléans? Le fils de Philippe Égalité. Son père était un régicide. Lui-même avait combattu Hégémap. Il réconciliait dans sa personne la Révolution et l'Ancien Régime, le passé et le présent. On crut avoir touché au port. Un historien goûté des classes moyennes, Augustin Thierry, écrivit un ouvrage où il démontrait que toute l'histoire de France n'avait tendu qu'à l'avènement de cette royauté bourgeoise. La monarchie de Juillet portait en elle-même une grande faiblesse. Elle était née sur les barricades. Elle était sortie d'une émeute tournée en révolution. Et cette révolution avait été soustraite à ceux qui l'avaient faite par des hommes politiques qui n'avaient pas paru dans la bagarre, qui en avaient même horreur, mais qui, tenant une combinaison toute prête, avaient profité des événements pour l'imposer. Cette combinaison était artificielle. L'émeute avait éclaté à Paris, et il s'était entendu, depuis 1789, que Paris donnait le ton à la France. La grande masse du pays était restée étrangère au renversement de Charles X, autant qu'à la fondation du régime nouveau. Quant aux libéraux, qui avaient substitué le duc d'Orléans au souverain détrôné, il représentait le pays légal, les électeurs censitaires, c'est-à-dire 200 milliers de personnes en tout. Il allait donc se produire ceci. Les vainqueurs des journées de juillet, républicains et bonapartistes unis, seraient déçus, et il resterait des possibilités d'agitation et d'émeute. D'autre part, la charte de 1814, légèrement remaniée, étant considérée comme la vérité définitive, le régime restait fidèle au système qui n'accordait le droit de suffrage qu'aux riches. Louis-Philippe, ne pouvant se réclamer de la légitimité comme Louis XVIII, ne s'appuyait pas non plus sur le plébiscite comme Napoléon. C'est le point essentiel pour l'éclaircissement de ce qui va suivre, car c'est sur la question du droit de suffrage que la monarchie de Juillet, au bout de 18 ans, est tombée. Les théories sont changeantes, et il paraît surprenant que d'authentiques libéraux aient été obstinément hostiles au suffrage universel. En général, cette hostilité est attribuée à un esprit de méfiance et de crainte à l'égard des masses populaires, à l'idée que des électeurs bourgeois, des citoyens qui possèdent, sont plus conservateurs que les autres. Cette opinion était sans doute en faveur chez ceux qui considéraient le suffrage universel comme une force révolutionnaire, et le suffrage restreint comme un moindre mal, en quoi ils se trompaient beaucoup. Il est surprenant qu'après l'expérience orageuse du système parlementaire sous la Restauration, un esprit aussi pénétrant que celui de Louis XVIII, un caractère entreprenant et même aventureux comme celui de Charles X, une intelligence aussi subtile que celle de Louis-Philippe n'ait pas discerné cette erreur. Mais les libéraux raisonnaient autrement, et à leur point de vue, ils raisonnaient mieux. Le suffrage universel leur apparaissait comme un poids immobile, sinon une force rétrograde. Ils étaient dans les mêmes sentiments que les constituants de 1790, qui avaient divisé les Français en citoyens actifs, ceux qui votaient, et en citoyens passifs, indignes de voter par leurs conditions. Robespierre lui-même avait refusé le droit de suffrage aux domestiques, de manière à écarter surtout les salariés agricoles. Or, la France était en grande majorité rurale. Il semblait impossible aux libéraux de conduire une politique neuve, hardie, généreuse, avec ce peuple de terriens, nécessairement attachés à leurs intérêts matériels, bornés à l'horizon de leur village. Pour comprendre et pour aimer le progrès, pour pratiquer le régime de discussion, il fallait des hommes affranchis des préoccupations vulgaires de la vie, inaccessibles aux considérations mesquines, comme aux influences que subissent les ignorants et les besogneux. On ne vote selon des principes que si l'on est indépendant. Et d'où vient l'indépendance, sinon de la fortune? En vertu de cet axiome, on en arrivait à considérer que ceux qui étaient soldats, faute d'argent pour acheter un remplaçant, ne devaient pas décider par leur vote de la paix et de la guerre, leur jugement n'étant pas libre. Cependant, Louis-Philippe allait pratiquer, à l'extérieur, la même politique de paix que la Restauration. Comme elle, il sera accusé d'humilier la France, d'être l'esclave des traités de 1815. La révolution de 1830 avait relevé les trois couleurs qui signifiaient les frontières naturelles, l'affranchissement des peuples, la revanche, la gloire, d'où le nom de Trois Glorieuses, donné aux journées de juillet. Edgar Quinet dira plus tard « La révolution a rendu son épée en 1815. On a cru qu'elle allait la reprendre en 1830. » Là encore, un sentiment fut froissé, un espoir déçu. Les hommes qui avait fait cette révolution, voulait l'action, le mouvement au-dedans et au-dehors. Louis-Philippe, qui connaissait l'Europe, se rendit compte du danger, qui était, par une politique extérieure téméraire, de réunir les alliés et de remettre en vigueur le pacte de Chaumont. Il prit le parti de la modération, de l'ordre, de la prudence, qu'on appelait la résistance, par opposition au mouvement. Sortie d'une poussée révolutionnaire, c'est-à-dire, car les deux choses se confondaient, belliqueuse, la monarchie de Juillet sera conservatrice et pacifique. Elle donnera satisfaction aux besoins de tranquillité, aux intérêts matériels qui dominent le plus grand nombre. Mais elle mécontentera les esprits ardents qui vivaient sur les souvenirs de la République et de l'Empire. Et elle ne pourra pas compter, pour défendre cette politique, sur les masses, surtout rurales, à qui cette politique devait plaire. Car, de la guerre, c'était elle qui payait les frais encore plus alors que de nos jours. Ainsi, en s'obstinant à repousser le suffrage universel, la monarchie de Juillet se privait d'une base large et solide, celle qui avait déjà manqué à la Restauration. Elle se privait du concours de la partie la plus conservatrice de la population, alors que son système allait être conservateur, et de la partie la plus pacifique, alors que sa politique allait être fondée sur le maintien de la paix. En outre, la monarchie de Juillet, par son attachement à un suffrage étroitement restreint, blessait une large partie de la classe moyenne, à l'image de laquelle ce régime semblait créé. La garde nationale, destinée à le défendre et à le maintenir, n'était composée que d'hommes qui payaient l'impôt direct, mais qui n'en payaient pas tous assez pour être électeurs. Chez les petits commerçants, les médecins, les avocats, les intellectuels, on irritait le sentiment de l'égalité, si vif dans la bourgeoisie. On les incitait à désirer, du moins pour eux-mêmes, le droit de suffrage, dont quelques francs de contribution les séparaient. Ainsi l'on faisait des mécontents, tandis que les électeurs et les élus de la bourgeoisie riche donnaient des chambres aussi frondeuses que sous la Restauration. Cet ensemble d'erreurs a causé la Révolution de 1848, comme nous le verrons bientôt. Les débuts de la nouvelle monarchie furent pénibles. L'émeute d'où elle était née pesait sur elle et demandait son salaire. Il fallut lui céder, d'abord, et Louis-Philippe donna le ministère au banquier Lafitte et au parti du mouvement. Déjà pourtant, il fallait résister à la pression de la rue, qui exigeait la peine capitale pour les ministres de Charles X, dont on eut grand-peine à sauver la vie. Ils ne furent condamnés qu'à la prison. Mais c'était à l'extérieur surtout qu'il fallait prendre garde. Les alliés avaient lieu de penser, d'après le langage des révolutionnaires de 1830, que la France, revenue au drapeau tricolore, ne tarderait pas à reprendre ses anciennes conquêtes, et ils étaient résolus à la maintenir dans ses frontières de 1815. Louis-Philippe dut les rassurer en secret. Déjà, une grave question était posée. Avant les journées de juillet, les Belges s'étaient soulevés contre la domination hollandaise. Les événements de Paris les avaient encouragés à se délivrer de leur maître et ils étaient portés à chercher aide et protection du côté de la France. Le moment n'était-il pas venu de terminer, dans les meilleures conditions, une des plus grandes affaires de notre histoire, celle qui n'avait jamais pu être résolue, celle des Flandres? N'était-ce pas l'heure de réunir la Belgique, puisqu'elle semblait le demander? Mais pas plus alors qu'en 1792 ou à n'importe quelle autre date, l'Angleterre n'eut permis cette annexion. Et si la foule méconnaissait cette loi, comme la Révolution l'avait méconnue, Louis-Philippe ne l'ignorait pas. Il avait tout de suite envoyé comme ambassadeur à Londres l'homme que Louis XVIII avait choisi pour le congrès de Vienne, Talleyrand. Talleyrand devait encore trouver la solution, concilier la paix avec la sécurité et la dignité de la France. Tâche rendue difficile par le parti ardent qui agitait Paris. On a comparé avec raison la diplomatie de Louis-Philippe et de Talleyrand à celle de Fleury, qui, un siècle plus tôt, malgré les cabales, l'indignation, les mépris, avait sauvegardé la paix. Louis-Philippe et Talleyrand ont réglé l'antique problème belge, cette pierre d'achoppement de l'Europe, de la manière la plus satisfaisante pour tous. Malgré la Belgique elle-même, oubliant alors, par haine et crainte de la Hollande, qu'elle n'avait jamais tenu à devenir province française, ils lui donnèrent d'être une nation. Le Congrès national belge voulait un prince français, le duc de Nemours, ou à son défaut, le fils d'Eugène de Beauharnais. Le duc de Nemours fut élu roi le 3 février 1831, et Louis-Philippe refusa cette couronne pour son fils. L'acceptation eut déjà été une réunion déguisée, la guerre certaine avec les puissances. Déjà, il était assez difficile de retoucher sur ce point les traités de 1815, de soustraire la Belgique à la domination hollandaise. Si une insurrection des Polonais eût éclaté à ce moment-là, paralysant la Russie et avec elle la Prusse, il n'est même pas sûr que les Belges eussent été affranchis. La Pologne fut écrasée, mais sa diversion avait sauvé la Belgique comme elle avait, sous la Révolution, sauvé la France. La Belgique indépendante était fondée. Elle l'était parce que la monarchie de Juillet, à la conférence de Londres, avait joué le même rôle suivit la même politique que la Restauration au Congrès de Vienne. Les puissances avaient voulu que la Belgique libre fût neutre, et sa neutralité garantie par l'Europe pour interdire à jamais aux Français de l'annexer. Cette neutralité était dirigée contre la France. Elle devait, dans l'esprit du traité d'Utrecht, servir de barrière à nos ambitions. Louis-Philippe l'accepta, la signa, la respecta. Et 80 ans plus tard, c'est la Prusse, signataire et garante aussi, qui l'a violée. Alors, la précaution prise contre la France s'est retournée contre l'Allemagne. Elle a déterminé l'Angleterre, hésitante, à intervenir et, en fin de compte, nous a profité. Il a fallu près d'un siècle pour que le service rendu par Louis-Philippe fût compris et apprécié. En 1831, sa renonciation à la Belgique passa pour une trahison, un lâche abandon des traditions révolutionnaires et napoléoniennes. En acceptant Léopold Ier, un cobourg, candidat de l'Angleterre, pour roi des Belges, le roi français se réservait pourtant de lui donner sa fille, la princesse Louise, en mariage. En 1832, il sauvait encore la Belgique, menacée par un retour offensif des Hollandais, et une armée française livrée Anvers. Toutes sortes de liens d'amitié se nouaient avec la jeune nation. Cependant, l'Angleterre avait été distraite de notre occupation d'Alger par les soucis que lui avaient donnés les bouches de l'Escaut, et nous pouvions prendre pied sur l'autre rive méditerranéenne, organiser la conquête entreprise par Charles X sans qu'il en eût recueilli la moindre gratitude. Quelle faible et dérisoire compensation l'Algérie semblait alors aux conquêtes perdues de la République et de l'Empire. Louis-Philippe avait accepté le trône. Ses adversaires de droite et de gauche disaient qu'il l'avait usurpé. Pour épargner à la France l'anarchie et la guerre, préserver la dignité de la nation et son avenir. Il continua la restauration avec le drapeau tricolore. 8 mois après les journées de juillet, Lafitte et le parti du mouvement étaient usés, cédaient la place à Casimir Perier et au parti de la résistance. La nouvelle monarchie avait maintenu la paix à l'extérieur. Au-dedans, elle revenait à l'ordre. Ce ne fut pas sans peine ni sans de vigilantes secousses. L'émeute, frustrée de sa victoire sur Charles X, se réveilla plusieurs fois. La rupture avec les formes et les signes de l'ancienne monarchie, attestée par le nom de Louis-Philippe Ier, qui avait pris le souverain au lieu de celui de Philippe VII, que les doctrinaires lui conseillaient, bien d'autres détails destinés à donner l'impression que cette monarchie des Bourbons de la branche cadette ne ressemblait pas à celle des Bourbons de la branche aînée, de multiples concessions à l'opinion libérale et anticléricale n'avaient pas suffi. Au pillage d'églises, au sac de l'évêché, avaient succédé des insurrections véritables. Le feu de 1830 n'était pas éteint. L'enterrement du général Lamarque fut pour les républicains et les bonapartistes, toujours réunis, l'occasion d'une prise d'armes. Presque en même temps, la duchesse du Berry avait essayé de soulever la Vendée. Les légitimistes étaient aussi irréconciliables que les révolutionnaires. À Lyon, une première insurrection, de caractère socialiste, avait été réprimée. Une autre, beaucoup plus grave, éclata en 1834. Fut écrasée à son tour, non sans un vif retentissement à Paris, où la Société des droits de l'homme souleva ses adhérents. On vit alors ce qui devait se reproduire aux journées de juin et sous la Commune. La colère de la bourgeoisie menacée, la fureur de la garde nationale qui, jointe à l'armée régulière, ne fit aucun quartier. Les insurgés furent abattus comme des malfaiteurs. Le massacre de la rue Transnonain, dont le souvenir est resté longtemps, annonçait des guerres sociales où la classe moyenne se défendrait avec énergie. Cette réaction, violente et spontanée, ne fut pas sans influence sur la monarchie de Juillet. Le régime aussi se défendit, s'éloigna de plus en plus de ses origines révolutionnaires, de même que les bourgeois français, malgré leurs opinions libérales, avaient montré leur aversion pour le désordre. La monarchie de Juillet se mit alors à poursuivre les républicains, à punir leurs complots, comme sous Louis XVIII. En 1835, l'attentat manqué de Fieschi contre le roi justifia de nouvelles mesures de répression. Comme après l'assassinat du duc de Berry, la liberté de la presse fut limitée. Cependant, cette bourgeoisie, résolue à se défendre, était elle-même indisciplinée. Les chambres qu'elle élisait, qui ne représentaient que les riches, n'étaient pas plus raisonnables que celles de la Restauration. La bataille des ambitions et des partis, la fronde contre le pouvoir, y furent ce qu'elles avaient été. Parlant plus tard de 1848, Sainte-Beuve écrivait « Il resterait toujours à examiner si la catastrophe n'a pas été provoquée par ces luttes obstinées et retentissantes, à l'intérieur d'une chambre dont les portes s'ébranlaient sans vouloir s'ouvrir ni même s'entrouvrir. » Le produit du suffrage censitaire, d'un suffrage restreint qui ne voulait rien céder de son privilège d'argent, c'est-à-dire surtout des rivalités de personnes, d'âpres conflits pour la conquête du ministère. En quelques années, les hommes se succédèrent, ambitieux de briller. Broglie après Guizot, Thiers après Broglie. tous ceux qui avaient contribué à la chute de l'autre monarchie parce qu'ils n'y trouvaient pas leur place assez belle, qui avaient donné pour devise et mis comme condition à la monarchie nouvelle « Le roi règne et ne gouverne pas ». Après 6 ans de cette instabilité dangereuse, Louis-Philippe entreprit de corriger les effets du régime parlementaire et de gouverner lui-même, par des hommes de confiance. La dernière expérience d'un cabinet désigné par la majorité fut celle de Thiers, en 1836. Converti à l'idée de la conservation, non seulement en France mais en Europe, Thiers tenta avec l'Autriche un rapprochement qui devait être couronné par le mariage du duc d'Orléans avec une archiduchesse. Le refus de la cour de Vienne fut pour Thiers comme un échec personnel qui le rejeta vers le libéralisme. Changeant de fond en comble sa politique, il était prêt à entrer en conflit avec Metternich pour intervenir en faveur des libéraux espagnols, lorsque, toujours soucieux de maintenir la paix, Louis-Philippe l'arrêta. Thiers, à son tour, tombait. Alors, le roi appela au ministère un homme à lui, Molé, qui recevait ses directions. Ce qu'on appela tout de suite le gouvernement personnel commençait, et l'opposition systématique, celle qu'avaient connue les Bourbons de la branche aînée, commença aussi. 6 ans après les barricades, on en était là. Par une curieuse rencontre, cette année fut celle où parut un homme qui devait un jour gouverner la France bien plus personnellement que Louis-Philippe et avec l'assentissement du pays. Le roi de Rome, devenu duc de Reichstadt, était mort en 1832, et l'héritier du nom napoléonien était un neveu de l'empereur, fils de Louis, roi de Hollande et d'Hortense de Beauharnais. Qui avait cru à l'avenir politique de Louis-Napoléon Bonaparte, jeune homme obscur dont l'existence était à peine connue, lorsqu'il essaya, en 1836, de soulever la garnison de Strasbourg? Sa tentative ne fut même pas prise au sérieux. On se contenta d'expédier le prétendant en Amérique et le jury acquitta ses complices. L'idée napoléonienne semblait morte et son représentant un aventurier ridicule. Quiconque eût alors annoncé une restauration de l'Empire eût passé pour fou. C'était l'heure où les chefs parlementaires, du centre droit jusqu'à la gauche, le duc de Broglie, Guizot, Thiers, Odilon Barrot, soutenus par les légitimistes et les républicains, menaient la lutte contre Molé, le favori, l'homme du château. Ce fut la coalition, l'immorale et funeste coalition, regrettée trop tard de ceux qui l'avaient menée, comme certains des libéraux qui avaient préparé la révolution de 1830 regrettèrent par la suite leur étourderie. À 10 ans de distance, les mêmes hommes, ou peu s'en faut, affaiblissaient le régime qu'ils avaient fondé, comme ils avaient miné la Restauration, et par les mêmes moyens. Le thème n'avait pas changé. La monarchie était accusée d'humilier la France devant l'Europe, d'altérer la politique nationale. Les contemporains eux-mêmes furent frappés de la similitude. Lorsque Molé, en 1839, eut été battu aux élections et au lieu d'obtenir une majorité, perdit 30 sièges, tout le monde évoqua le cas de Martignac. On crut à un nouveau 1830 et les révolutionnaires, conduits par Barbès, tentèrent de soulever Paris. Les barricades ne durèrent pas plus d'un jour, mais il était évident que l'agitation parlementaire avait réveillé le parti de la Révolution. Cette alerte ne servit pas de leçon à la Chambre, qui combattit le maréchal Soult, choisi par le roi, comme elle avait combattu Molé, qui, chose admirable, se réconcilia avec Thiers et se joignit à l'opposition. Ce furent quelques mois de guerre ouverte, non seulement contre le cabinet, mais contre la couronne, à qui l'on reprochait l'effacement, c'est-à-dire la prudence de sa politique européenne, à qui l'on marchandait jusqu'à l'argent de la liste civile. Ainsi, la monarchie de Juillet était discréditée, ébranlée par ceux qui l'avaient faite, par ses élus censitaires qui sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis. Louis-Philippe était poussé dans ses retranchements, comme l'avait été Charles X. Plus prudent, il céda, et en 1840, rappela Thiers, qui avait conduit cette campagne. Une nouvelle expérience commençait, et elle allait conduire à une crise grave par cet esprit d'aventure que le roi redoutait chez le ministre que la Chambre lui avait imposé. Thiers, historien, avait ranimé les souvenirs de la Révolution et de l'Empire. Il voulait s'illustrer par une politique extérieure active, quels que fussent les risques d'un conflit avec l'Europe. Comme Chateaubriand sous Louis XVIII, il poussait la monarchie à rivaliser de gloire avec Napoléon. Thiers proposa tout de suite de ramener de Sainte-Hélène les restes de l'empereur, chargea de cette mission le prince de Joinville, comme pour associer la famille royale elle-même à la réhabilitation et à l'exaltation de l'Empire. Le retour des cendres ébranla les imaginations. Il ajouta, comme Lamartine prophétiquement l'avait annoncé, un élément à la conspiration presque générale de la littérature, passée au culte de l'empereur. Le retour des cendres, c'était aussi un programme, celui d'une attitude énergique, on voulait dire provocante, au dehors et de la revanche des traités de 1815. Cette politique, si téméraire, si dangereuse, qu'on a pu appeler le parti de Thiers, le parti de la fanfaronnade, avait pourtant la faveur de l'opinion publique. Mais l'opinion publique, c'était la bourgeoisie, les députés, les journaux. La grande masse du pays restait immobile, étrangère à ces débats. Elle n'était même pas consultée. On conçoit que Thiers, à ce moment-là, plus qu'à aucun autre, ait été hostile au suffrage universel. Il savait bien que la France rurale donnerait son appui à la politique pacifique, celle du roi, parce qu'il n'était pas possible d'intéresser le paysan au pacha égyptien Mehemet Ali, dont la cause soulevait autant d'enthousiasme que naguère celle de la Grèce en avait soulevé. Il y avait déjà plusieurs années que les exploits de Mehemet Ali, conquérant oriental, retentissaient en Europe, ajoutaient à la question d'Orient, toujours ouverte depuis le XVIIIe siècle, un élément dangereux, en menaçant au sud la Turquie, menacée au nord par les Russes. Jusqu'alors, la monarchie de Juillet s'était efforcée de jouer le rôle de médiatrice entre la Russie et l'Angleterre, toujours rivale en Orient. La politique française posait en principe l'intégrité de l'Empire ottoman, pièce de l'équilibre européen, dans l'idée qui avait été celle de Talleyrand depuis le congrès de Vienne. Compenser l'abandon des conquêtes de la France par l'interdiction des conquêtes aux autres puissances. Cette méthode, Thiers la changea radicalement. Ce qu'il cherchait en Orient, c'était un succès par une victoire du héros Mehemet Ali, en amenant le sultan de Constantinople à laisser la Syrie aux conquérants égyptiens. Cette action séparée, aussitôt connue en Angleterre, y détermina une violente riposte, une coalition contre Mehemet Ali, en réalité contre la France, accusée de troubler la paix européenne. Et cette coalition, c'était celle des quatre grandes puissances, Angleterre, Russie, Prusse et Autriche. Le traité du 15 juillet 1840 renoua le pacte de Chaumont. C'était la guerre, celle que Louis-Philippe avait redoutée, la lutte inégale d'un contre quatre. À l'explosion des sentiments belliqueux qui se produisit alors chez les Français, on put juger de leurs illusions, de leur méconnaissance du danger. Henri Penn, à Paris, observait un joyeux enthousiasme guerrier plutôt que la consternation. Le mot d'ordre commun est « guerre à la perfidie Albion ». Louis-Napoléon Bonaparte, non moins bon observateur, marqua ce moment par une manifestation nouvelle. Il débarqua à Boulogne, d'où son oncle jadis avait menacé la puissance anglaise. Il fut cette fois enfermé au fort de Ham, d'où il s'évaderait bientôt. De cette seconde équipée, son étoile ne devait pas souffrir. Thiers continuait à travailler pour lui. Quelque imprudent qu'il fût, Thiers se rendit compte qu'un conflit avec les Anglais serait dangereux. Il se flatta d'apaiser l'Angleterre et de tourner tout l'effort de la France vers une guerre contre la Prusse et l'Autriche, où de faciles victoires apporteraient la revanche de Waterloo, détruiraient les traités de 1815. Ce qui surgit alors, au moins égal en intensité, au sentiment national français, ce fut un nationalisme germanique, aussi violent qu'en 1813, signe avant-coureur des ruées et des invasions prochaines. C'était ainsi déjà que, 100 ans plus tôt, le parti anti-autrichien avait jeté la France dans une guerre inutile. C'était ainsi qu'en 1792, les Girondins avaient ouvert la guerre de peuple à peuple. Cependant, l'entraînement chez nous était tel qu'il gagnait la famille royale elle-même. « Mieux vaut, disait le duc d'Orléans, périr sur le Rhin et le Danube que dans le ruisseau de la rue Saint-Denis. » Presque seul, malgré son ministre, l'opinion et son entourage même, Louis-Philippe tint bon pour la paix, sachant que l'Angleterre ne lui permettrait pas plus qu'elle ne l'avait permis à la Révolution et à Napoléon Ier de reprendre la politique des conquêtes. Bravant l'impopularité, il s'interposa, désapprouva le langage belliqueux de Thiers et au mois d'octobre, l'obligea à se démettre. Le service que le roi avait rendu au pays, le deuxième après la fondation de l'indépendance belge, le découvrait davantage, exposait plus que jamais aux reproches d'humilier la nation. Ce que Louis-Philippe lui avait épargné, c'était pourtant une guerre continentale, doublée d'une guerre maritime, où le désastre était certain. Méprisé, insulté, Louis-Philippe n'eut même pas obtenu l'appui de la Chambre si quelques hommes, plus clairvoyants que les autres, et qui avaient compris le péril auquel la France venait d'échapper, n'avaient, avec Guizot pris de remords, renoncé à leur opposition. Désormais, et pendant les années qui restaient à la monarchie de Juillet avant de succomber, c'est avec Guizot, résolu à réparer le mal qu'il avait fait, que Louis-Philippe gouverna. Dans la Chambre même, le roi et son ministre furent soutenus par une majorité qui ne dépassa jamais 100 voix. L'opposition que rencontra leur politique extérieure, fondée sur l'entente cordiale avec l'Angleterre, fut d'un acharnement, d'une mauvaise foi qui aujourd'hui nous confonde. Guizot, qui connaissait les Anglais, qui avait été ambassadeur à Londres, définissait l'entente cordiale, l'indépendance dans la bonne intelligence. On ne lui pardonnait pas l'entente cordiale. Tout incident, qu'il s'agit du droit de visite ou de l'affaire Pritchard, un missionnaire anglais expulsé de Tahiti et pour lequel l'Angleterre réclamait une indemnité, donna lieu aux accusations les plus véhémentes. L'affaire Pritchard excita l'opinion à un degré incroyable. En 1844, on fut à deux doigts d'une guerre franco-anglaise pour la reine Pomarée. C'était l'année même où, poursuivant les conquêtes de l'Algérie, le maréchal Bugeaud battait à Lille les Marocains venus au secours d'Abdelkader, l'année où notre escadre bombardait Tanger. Une querelle coloniale en Océanie eût été absurde lorsque l'Angleterre était toujours hostile à notre établissement dans l'Afrique du Nord. Pour la première fois, le public s'intéressait aux affaires algériennes. À cette acquisition lente et pénible, elle n'était pas finie qu'il eût voulu tout le Maroc. Là encore, Louis-Philippe fut accusé de lâcheté et de poltronnerie. Un homme d'esprit a dit de cette époque « La France était dans le genre sentimental bien plus que dans le genre rationnel ». Ce malentendu devait aller en s'aggravant, tandis qu'à toutes les causes de faiblesse de la monarchie de Juillet s'en était jointe une nouvelle. En 1842, le duc d'Orléans avait été tué par un accident de voiture. Le roi avait 70 ans, l'héritier du trône, le comte de Paris, en avait 4. Au moindre découragement du vieux roi, le régime n'aurait plus personne pour le soutenir. Si Louis-Philippe tomba, comme Charles X était tombé, à l'improviste, ce fut pourtant par l'effet de causes complexes, à l'origine desquelles se place la rupture de l'entente cordiale. Cette entente, Louis-Philippe et Guizot, suivant la pensée de Talleyrand, l'avaient conçue comme une garantie de stabilité et de paix pour l'Europe. Mais il était venu au pouvoir, en Angleterre, avec le Parti libéral, un ministre, Palmerston, qui abandonnait la politique de conservation européenne à laquelle, depuis 1815, le gouvernement britannique était attaché et qui, partout sur le continent, favorisait les mouvements révolutionnaires et l'idée de nationalité dans la pensée que l'Angleterre aurait intérêt à en prendre la tête. Ainsi l'Angleterre, après avoir si longtemps tenu la France en suspicion comme le pays de la révolution conquérante, favorisait maintenant des agitations qui tendaient à renverser les traités de 1815 et à les renverser là seulement où ils nous donnaient de la sécurité. Bouleverser l'Allemagne et l'Italie, pousser à l'unité ces deux pays, c'était ouvrir une série de crises et créer des périls nouveaux dont nous serions les premiers à souffrir. La situation était changée du tout au tout. L'entente cordiale perdait sa raison d'être. Elle se brisa sur l'affaire des mariages espagnols. Louis-Philippe et Guizot, n'ayant pas admis que le trône d'Espagne sortît de la maison de Bourbon, tandis que Palmerston voulait y placer un gobour, et soutenait en Espagne le parti radical qui, de longtemps, ne devait cesser de troubler ce pays. La monarchie de Juillet était sage en s'opposant aux révolutions espagnoles, puisque c'était d'elle que devait sortir le prétexte, sinon la cause, de la guerre de 1870. Lorsque la France l'eut emportée, lorsqu'en 1846, la jeune reine Isabelle eut épousé le duc de Cadix et l'infante le duc de Montpensier, l'entente cordiale fut rompue. Alors, elle fut reprise, adoptée par l'opposition, puisque l'Angleterre se mettait à la tête des pays libres, Thiers, exaltant la politique qu'il reprochera à Napoléon III quelques années plus tard, flattait le sentiment public en se proclamant partisan de l'affranchissement des peuples. De cette campagne, où Thiers eut l'appui des républicains, M. Émile Bourgeois a dit justement « Les adversaires du cabinet Guizot n'aperçurent pas que derrière le ministère, ils atteignaient la dynastie et la France surtout, préparant une révolution européenne, plus dangereuse peut-être pour une vieille nation par le déchaînement des races que la coalition des peuples et des hommes d'État contre Napoléon. » La paix et la sécurité, c'est du côté de l'Autriche que la monarchie les chercha. L'alerte de 1840 avait révélé les vrais sentiments de l'Allemagne. Et maintenant, c'était le roi de Prusse qui, parlant un langage libéral, se mettait ouvertement à la tête d'un mouvement national pour l'unité allemande, le plus grand danger dont la France pût être menacée. L'Autriche était intéressée à ne pas laisser la Prusse dominer l'Allemagne, comme elle était intéressée, par ses possessions d'Italie, à ne pas permettre l'unité italienne, en faveur de laquelle un mouvement se dessinait aussi. Pour empêcher l'unité allemande à laquelle l'Autriche, puissance germanique, pouvait s'opposer en se découvrant moins que nous, il fallait que l'unité italienne fût sacrifiée. Ce fut la politique sur laquelle s'accordèrent Metternich et Guizot. L'Europe, en 1847, fut remplie de symptômes révolutionnaires accompagnés de l'éveil des nationalités, avant même qu'il y eût des signes de révolution en France. L'opposition reprocha au roi et à son ministre de trahir par une nouvelle sorte de sainte alliance les espérances et les vœux des peuples libres. Ce que la monarchie de Juillet défendait, c'était surtout la paix. Mais où pouvait-elle trouver des partisans pour cette politique pacifique? Dans les masses qui donnaient des soldats. Et les masses étaient exclues du vote. Leur influence ne comptait pas dans les affaires publiques. En même temps, une campagne commençait pour l'extension du droit de suffrage, droit réservé à la bourgeoisie riche, réclamé maintenant par les intellectuels, ce qu'on appelait les capacités. Attaqué tous les jours pour sa politique extérieure, ne regardant qu'une chambre où il avait la majorité, Guizot ne se souciait pas d'accroître l'opposition par les voix de ceux qui représentaient particulièrement l'opinion libérale et belliqueuse. Il ne songeait pas à l'antidote, au suffrage universel, au concours qu'une politique de paix eût trouvé dans les masses paysannes. L'impopularité de Guizot auprès de la bourgeoisie et dans la population parisienne fut causée en premier lieu par son attitude à l'extérieur. Il accrut son hostilité à la réforme électorale. Louis-Philippe, ne consultant que la charte, gardait un ministre que la Chambre ne renversa pas, comme Charles X, invoquant l'article 14, avait gardé Polignac. De même, encore que la révolution de 1830, celle de 1848, éclatait et réussit par surprise. Et ce furent aussi des bourgeois qui travaillèrent à la chute de la monarchie constitutionnelle, créée par eux à leur image. Une campagne pour la réforme électorale avait commencé sous la forme inoffensive de banquets, où des paroles de plus en plus séditieuses étaient prononcées. Lamartine à Mâcon annonçait la révolution du mépris. Un de ces banquets, ayant été interdit à Paris, donna lieu à une manifestation que les chefs de la gauche, effrayés, s'efforcèrent vainement de prévenir. La foule parisienne leur échappait déjà. Cependant, contre l'émeute qui grondait, le gouvernement n'avait pas pris de précautions extraordinaires. Pour se défendre, et pour défendre le régime, il comptait surtout sur la garde nationale. Mais, tandis que les barricades se dressaient le 22 février, les légions de la garde se rendaient à leur poste en criant « Vive la réforme !» Les gardiens de l'ordre, au lieu de combattre l'émeute, la renforçaient. Quand Louis-Philippe éclairait sur les dispositions de sa bourgeoisie, qu'il s'était obstiné à croire fidèle, se décida à remercier Guizot, il était trop tard. L'insurrection laissée libre avait grandi. Pour lui tenir tête, la troupe restait seule, et elle n'était pas suffisante. Une fusillade, boulevard des Capucines, devant le ministère des Affaires étrangères, celui de Guizot, tua une quinzaine d'insurgés, et la promenade des cadavres à travers Paris excita davantage la foule. Dès lors, un ministère tiers, un ministère Odilon Barrot, proposé par le roi, ne servait plus à rien. Le 24 février, le maréchal Bugeaud, qui essaye de rétablir l'ordre, est débordé. Les Tuileries sont menacées. Les chefs parlementaires, dans le désarroi, sont surpris, autant que Louis-Philippe lui-même, par cet accident. Pas plus qu'en 1830, le gouvernement n'a prévu l'attaque ni préparé sa défense. Comme Charles X, Louis-Philippe renonce au trône, sans en appeler au pays, dès que Paris s'est prononcé. Comme lui, il abdique en faveur de son petit-fils, quand déjà un autre régime est prêt. La Chambre est envahie au moment où elle vient d'acclamer la régence de la duchesse d'Orléans, quand Odilon Barrot vient de dire « Est-ce qu'on prétendrait remettre en question ce que nous avons décidé par la Révolution de juillet ?» Quelques minutes plus tard, la République était proclamée. Fin du chapitre 19.